Ça va venir. Tu peux peut-être recliquer. Merci. C'est bon. Vous connaissez peut-être ce personnage. C'est le personnage principal de la série Breaking Bad. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Je vais un petit peu vous raconter ça dans l'introduction. Par contre, si vous comptez la voir, c'est le moment de se boucher les oreilles pendant les 2 minutes d'intro. Donc, Walter White, c'est le personnage principal donc, de cette série. On apprend dans le premier épisode qu'il a le cancer et qu'il ne reste plus longtemps à vivre. Et en père de famille, il va décider de se mettre à faire tout un tas d'actions pour subvenir aux besoins de sa famille. Vu qu'il n'est pas très riche, il va décider en fait de se mettre à fabriquer et vendre de la drogue pour gagner de l'argent rapidement et faire que sa famille puisse survivre après sa mort. Donc, il fait tout un tas de mauvaises actions, mais au départ, pour de très bonnes intentions. Son but, c'est sa famille. Et au fil des saisons, on va suivre petit à petit le parcours, la spirale dans la violence et dans l'amoralité de ce personnage. Mais il y aura un refrain. C'est qu'à chaque fois qu'il est confronté aux conséquences de ses actes, il va tenir ce discours. Tout ce que je fais, même si c'est mal, je le fais pour ma famille. Ce que je fais, je le fais pour ma famille. Ça va continuer pendant les 6 ou 7 saisons, jusqu'au dernier épisode, où il est confronté une dernière fois à sa femme, et doit une dernière fois s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et nous, en tant que spectateurs, on s'attend à ce qu'ils disent une nouvelle fois, bah, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour nos enfants. Et en fait, non, dans une scène extrêmement surprenante, voici ce qu'il avoue finalement. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'aimais ça, j'étais bon à ça, et je me sentais en vie. Et donc dans ce dernier épisode, dans cette sorte de confession, on voit que le personnage qui était parti il y a des années avec une bonne intention, un but, celui de servir sa famille, petit à petit s'est mis à aimer ce qui est au départ des moyens, et ces moyens, en fait, c'est devenu le but. Son but, c'était de se sentir bien dans ce qu'il faisait, et sans s'en rendre compte, le moyen est devenu un but, et le but initial qui était de subvenir aux besoins de sa famille, en fait, c'est juste devenu une excuse. Et s'est rendu compte à la fin, bien trop tard, que tout ce qu'il faisait, en fait, il le faisait pour lui et plus du tout pour sa famille. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? En fait, je pense que c'est un petit peu le même mécanisme qui s'est passé dans l'église d'Éphèse à la fin du 1er siècle. On le voit dans le texte qu'on a lu, où Jésus adresse un message spécifique à l'église d'Éphèse. Donc c'est une vision qu'il donne à Jean, mais il lui dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse ». C'est un message pour l'église d'Éphèse. Et on voit que cette église, elle fait plein de choses bien. Elle croit plein de choses bien. Elle a persévéré, on va voir tout ce qu'elle a fait de bien. Et quand on lit la lettre aux Éphésiens que Paul a écrit des dizaines d'années plus tôt, on voit que c'est une église à la base qui était vraiment motivée par l'amour pour Dieu. Mais là, dans ce texte, il y a ce verset 4 qui a une résonance assez terrible. « Tu as abandonné ton amour pour moi. » Jésus accuse l'Église de ne plus agir par amour pour lui. Et donc, au cours du temps, on va essayer de comprendre comment et pourquoi, tout comme le personnage de cette série, l'Église s'est mise à abandonner son amour pour Dieu et de ne plus agir pour Jésus. Et ce que je vous propose ce matin, c'est d'abord qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a provoqué cet abandon de l'amour pour Jésus? À Éphèse, et puis aussi se demander, est-ce que ça peut arriver dans notre Église, ou est-ce que ça peut arriver dans nos vies? Ça va être un petit peu la première partie déprimante du message. Et après, on verra quelle réaction qu'on doit voir par rapport à cela, quels sont les conseils ou les ordres que Jésus nous donne par rapport à ça. Donc d'abord, qu'est-ce qui menace de nous faire perdre notre amour pour Jésus? Une première chose qui frappe quand on lit ce passage, c'est d'abord la manière dont Jésus complimente l'Église. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Là, je me dis « Wow, j'aimerais bien être dans cette Église. » Je me dis que ça devait être une Église qui continuait à faire plein de bonnes choses, à avoir une vie d'Église bien remplie, active. Et de l'extérieur, on devait se dire que tout allait bien dans cette Église. Et clairement, Jésus n'est pas en train de dire que les œuvres de l'Église sont nulles ou qu'elles ne valent rien. Il met vraiment ça à son crédit. Ce qu'il leur reproche, c'est d'avoir perdu la motivation, le cœur qu'ils avaient au début. Ils ne font plus les choses par amour pour lui. Et du coup, quel est le danger de nos bonnes actions? Eh bien, si on n'y fait pas attention, nos bonnes actions, ça peut être petit à petit une manière de se sentir bien, de se sentir des bons chrétiens. Alors certes, on reste convaincu qu'on a été sauvé par grâce, mais ça devient une manière, individuellement ou collectivement, de mériter un petit peu notre salut a posteriori, de se présenter à Dieu avec les mains pleines de nos œuvres et de s'attendre à peut-être ce qu'il nous bénisse pour ça. À se sentir mieux que les autres qui font moins de choses que nous, à se sentir mieux que d'autres églises qui font moins de choses que nous. Et on va petit à petit trouver notre identité dans ce qu'on fait plutôt que dans ce que Dieu a fait pour nous. Et Jésus nous a vraiment mis en garde contre ça. Il a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc si on place trop d'importance dans ce qu'on fait, on risque de mettre notre identité là-dedans et notre cœur ne risque de plus être tourné vers Dieu, mais sur nous et sur nos œuvres. Le but, ça doit toujours rester Dieu, ça doit toujours rester la gloire de Dieu. Ça ne doit jamais être centré sur moi. Et à titre personnel, c'est par exemple un challenge pour moi de se présenter ici et de parler sans vouloir étaler ma science, sans vouloir être admiré de gens que moi-même j'admire dans l'Église, mais de simplement présenter ce que Dieu veut dire. C'est difficile de s'examiner et de connaître nos motivations. Et pour ça, il faut qu'on se mette à l'écoute de Dieu. Lors du congrès CEF, il y a quelques semaines, l'orateur Alain Stamp nous a exhortés à prendre des moments de silence pour écouter Dieu, pour écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Nous rappeler que dans nos vies qui vont à 3000 à l'heure, dans nos vies on est tout le temps occupé à faire plein de bonnes choses, on a besoin parfois de se poser pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Pour écouter si jamais Dieu a peut-être à nous dire que on l'a un petit peu oublié, qu'on l'a un petit peu mis de côté dans nos buts et dans nos motivations. C'est aussi un challenge collectif. C'est très intéressant dans ce chapitre, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Donc Jésus adresse des messages à cette église. Et à chaque fois, on ne sait pas trop s'il s'adresse à l'église, aux responsables de l'église, aux membres de l'église. Et en fait, sans doute que ce flou, il est volontaire. Parce que l'église, finalement, elle est constituée des membres de l'église. Si les membres de l'église sont tous tournés vers Jésus, vers Dieu, alors l'église, dans son ensemble, dans ses activités, sera aussi tournée vers Jésus. Et à contrario, si l'église, dans son ensemble, dans sa globalité, elle est mal dirigée ou elle est dans une routine, ça va avoir un effet négatif sur ses membres. Donc, il y a à la fois un challenge individuel et un challenge collectif. Et je pense que nous devons, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous questionner mutuellement. C'est pas parce que quelqu'un fait plein de choses dans l'Église, c'est pas parce que quelqu'un est ancien, c'est pas parce que quelqu'un prêche que ça va bien dans sa relation avec Dieu. Et on a besoin de se poser ces questions. Pas juste est-ce que ça va bien cette semaine, mais est-ce que ça va bien avec Dieu? Est-ce que tu es dans une phase plutôt bien dans ta relation avec lui, ou peut-être que tu t'es un petit peu éloigné? Et ça, c'est difficile à savoir de l'extérieur. On voit que l'église d'Éphèse, visiblement, elle faisait plein de bonnes choses, mais derrière, le cœur n'y était pas. On a vu que nos bonnes actions pouvaient représenter un danger si on ne les faisait plus pour Dieu. De la même manière, notre bonne doctrine, notre bonne théologie, ça peut être un danger. C'est la deuxième chose qui frappe dans les compliments que Jésus fait à l'Église. C'était une Église qui avait gardé la bonne doctrine. Il y avait visiblement des gens, des personnes qui étaient venues, des mouvements de pensée qui avaient tendance, peut-être un petit peu libéraux, à dire que certains péchés, en fait, ça n'en était peut-être pas. Et là, Jésus leur dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Donc l'Église avait gardé le cap. Mieux encore, Jésus avait prévenu ses disciples qu'il y aurait des faux prophètes, des faux apôtres qui arriveraient dans l'Église. Paul l'avait spécifiquement prédit à l'Église d'Éphèse. Et il y avait effectivement des personnes, on le voit, qui se sont présentées, qui ont parlé, qui ont dit, prétendu parler de la part de Jésus, peut-être des personnes qui ont prêché, qui se sont présentées devant l'Église. Et l'Église d'Éphèse a examiné leur enseignement au regard des Écritures, sans doute, a examiné la vie de ceux qui se prétendaient apôtres, et l'a discerné qu'ils n'étaient pas fidèles à l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on voit que tant d'églises avaient tendance à écouter les faux apôtres, Éphèse était restée fidèle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait tellement envie d'avoir une bonne doctrine. On y est particulièrement sensible en tant qu'évangélique. On tient à penser les bonnes choses. Mais tout comme les bonnes actions, la bonne doctrine peut aussi être un piège qui nous éloigne de Dieu. Encore une fois, tout comme les bonnes actions, ça peut être un moyen pour nous de gagner notre salut, en mettant des guillemets. On se dit que on est sauvé parce qu'on croit les bonnes choses, parce qu'on a la bonne confession de foi. Encore une fois, on reste convaincu qu'on est sauvé par grâce, mais quand même, j'ai la bonne doctrine, j'ai la bonne théologie. Ça nous amène rapidement aussi à mépriser d'autres qui ne croient pas comme nous. On se dit qu'on a mieux compris comment les dons spirituels fonctionnent, qu'on a mieux compris comment le millénium fonctionne, qu'on a mieux compris tout sur tous les sujets, aussi importants que la diachronie au sein de l'histoire de l'Église. Et on en vient à se sentir supérieur aux autres par ce qu'on croit. Et dans 1 Corinthiens 8, il y a un verset que je trouve très intéressant. Paul dit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas comme il faut. La bonne connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, elle est centrée sur sa personne. Elle a pour but de le connaître lui. C'est comme quand on est amoureux de quelqu'un. On n'a pas envie de le connaître juste pour collectionner des informations sur lui. Le but, c'est l'autre, c'est notre relation avec l'autre. Et c'est la même chose dans notre théologie, dans notre doctrine. C'est primordial et c'est important, mais ce n'est qu'un moyen pour le bon but qui est notre relation avec Jésus. Ça ne doit jamais être déconnecté de ça. Plus que ça, je pense que la bonne connaissance de Dieu, c'est un petit peu comme s'approcher d'une montagne. Plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Quand on s'approche d'une montagne, De loin, ça a l'air pas très grand. On se dit que ça va être facile à escalader. Et quand on se retrouve au pied, on s'aperçoit qu'en fait, c'est immense. C'est super haut. Qu'on n'arrivera jamais à grimper. On n'en aperçoit même plus le sommet. Et donc, la connaissance de Dieu devrait nous rendre de plus en plus humbles plutôt que de plus en plus orgueilleux. Et au bout du compte, Dieu n'apprécie pas plus notre bonne théologie que nos bonnes actions, que des sacrifices qu'on peut faire. Rappelons-nous qu'on est vraiment uniquement sauvés par grâce. Et parfois, il faudrait peut-être qu'on arrête de penser, qu'on arrête de faire momentanément et qu'on prenne le temps de se représenter devant Dieu, les mains vides. En sachant que peut-être que tout ce qu'on fait, c'est pas bien, que peut-être que tout ce qu'on croit, c'est pas bien, mais que c'est pas si grave que ça du point de vue de notre salut, parce qu'on croit qu'on est sauvé uniquement par grâce, malgré ce qu'on croit de faux, malgré ce qu'on fait de bien ou de pas bien. Et la dernière chose dans ce texte qui met en danger notre amour pour Dieu, ce sont les épreuves et la routine. On voit encore une fois dans le texte que l'église d'Éphèse a été soumise à une forme d'oppression, de persécution. Elle a souffert à cause du nom de Jésus. Éphèse, c'était une ville d'occultisme. C'était une ville où il y avait un culte aux dieux païens énorme. Et donc, ils devaient subir des pressions dans leur travail, dans leur famille, en tant qu'église, des pressions énormes. En plus, à la fin du 1er siècle, il y a le culte de l'empereur qui a commencé à se mettre en place. Et donc là aussi, ça a dû leur mettre une pression énorme. Ils ont souffert. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont résisté, c'est qu'ils ont tenu bon. Mais les épreuves dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, c'est quelque chose qui peut progressivement émousser notre amour pour Dieu. C'est quelque chose qui peut même nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Alors on sait qu'il est là, qu'il existe. On sait qu'on est chrétien, qu'on est sauvé. Mais la réalité de l'amour de Dieu, ça devient une notion assez abstraite. Et c'est un vrai défi d'obéir à ce commandement, de garder la joie au milieu des épreuves. En plus, quand on est opprimé de toutes parts, et c'est un petit peu notre cas aujourd'hui, on est de plus en plus en décalage avec nos concitoyens sur la plupart des sujets. Et on s'habitue à être sur la défensive. On s'habitue à défendre notre foi, nos opinions sur la plupart des sujets. Et le danger, c'est que on en vienne à être uniquement dans notre château fort, à se défendre, à en oublier notre amour pour Dieu et ce commandement d'aller parler de cet amour aux autres. Et enfin, la routine. Je discutais avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait que pour elle, le pire ennemi du couple, c'est la routine. Parce qu'on est fait comme ça en tant qu'humain, on devient blasé au fil du temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter une chanson à la radio. C'est la première fois que vous l'entendez, et là, vous la trouvez géniale. Alors vous l'achetez, et vous vous mettez à l'écouter en boucle. Une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la 50e fois, c'est plus tout à fait ça. On la trouve plus aussi géniale qu'au début. Là, à ce moment où l'Apocalypse est rédigé, on est vraiment à la fin du 1er siècle. Donc l'église d'Éphèse, ça fait des dizaines d'années qu'elle existe. Sans doute un petit peu moins de 50 ans. C'est à peu près la même échelle de temps que pour notre église ici. Et quand on en vient à être chrétien depuis des dizaines d'années, quand notre église existe depuis des dizaines d'années, il y a une routine qui s'installe. Il y a des habitudes, des traditions qui se mettent en route. Et le danger, c'est que on se met à continuer de faire des choses juste parce qu'on les a toujours fait comme ça. Et là aussi, on perd de vue ce pourquoi est-ce qu'on les fait. On avait sans doute commencé à les faire pour Dieu, Mais après, on continue à les faire parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est peut-être aussi la même chose avec certains sujets dont on parle. Je pense qu'il n'y a pas un dimanche ici où on ne parle pas de la grâce, on ne parle pas de la croix, on ne parle pas du sacrifice de Jésus ou de la gloire de Dieu. Mais est-ce que ça évoque encore quelque chose pour nous? Quand on prend la scène dimanche après dimanche, est-ce que ce n'est pas devenu un automatisme? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose pour nous? Et là, il y a donc un véritable challenge pour nous de parfois casser la routine et de se poser les questions: pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Donc ce que Jésus est en train de faire ici, c'est d'adresser un avertissement à l'Église. Il leur demande de se secouer un petit peu. Et le but du message ce matin, c'est pas de nous paniquer tous complètement. Tu as peut-être de super motivations dans tout ce que tu fais, et dans ce cas-là, c'est génial. Le but, c'est surtout pas de susciter une mauvaise culpabilité. Mais faisons attention à l'effet grenouille. L'effet grenouille, c'est quoi? Si vous prenez une grenouille vivante et que vous la jetez dans une casserole d'eau bouillante, ne faites pas ça, c'est une illustration. Si vous la jetiez dans une casserole d'eau bouillante, elle va sentir que c'est très chaud, et donc, avec la force qui lui reste, elle va sortir hors de l'eau pour sauver sa vie. Maintenant, si vous prenez la même grenouille, que vous la mettez dans une casserole d'eau froide, elle va se sentir bien, elle va rester. Si vous faites chauffer cette casserole à feu doux, la température va monter doucement, trop doucement pour que la grenouille sente le changement de température. Elle va s'habituer à chaque instant à la nouvelle température. Elle va finir par mourir ébouillantée de n'avoir pas détecté que la température de l'eau montait. Et je pense que dans tout ce qu'on a vu ici, ce sont des changements qui sont lents, qui sont longs. Et le défi pour nous, individuellement et collectivement, c'est donc de prendre des moments régulièrement pour prendre objectivement la température de l'eau. Savoir est-ce qu'on est bien, ou est-ce que ça commence peut-être un petit peu à chauffer, voir est-ce que l'eau n'est pas carrément bouillante. Et c'est tout à fait possible que l'on soit dans de bonnes conditions, mais réfléchissons, posons-nous la question pour identifier nos motivations. Et si jamais on se rend compte que certaines de nos actions n'ont plus pour but la gloire de Dieu, ne sont plus motivées par notre amour pour lui, alors il faut réagir. C'est intéressant comme Jésus accuse l'Église d'avoir abandonné son premier amour. Ça vient un petit peu en opposition avec la pensée contemporaine que l'amour, en tout cas le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et puis qui s'en va. On ne peut absolument pas agir dessus. Quand il est là, tout va bien. Et puis, quand il n'est plus là, on passe à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Jésus ici nous rappelle que notre amour pour lui, c'est une question de volonté. Si on abandonne cette volonté d'amour pour lui, notre amour pour lui va disparaître. Par contre, si on agit pour le maintenir, il va se maintenir. Et il s'agit de quelque chose de majeur. C'est sans doute l'un des messages traversants de la Bible, celui que l'homme a été créé pour aimer Dieu. C'est clairement énoncé comme le premier commandement par Jésus. Quand un homme s'adresse à Jésus pour lui demander quel est le commandement le plus important, il va citer l'Ancien Testament, Deutéronome 6, qui était un verset que les Juifs disaient sans doute tous les jours de leur vie. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc clairement, le but ultime de l'homme, c'est bien d'aimer Dieu, d'être dans une relation d'amour avec lui, et pas juste une religion, pas des actions, pas une doctrine. c'est premièrement un amour pour le vrai Dieu. Et c'est grave quand on transgresse ce premier commandement. Au verset 5, on voit ce que Jésus, l'avertissement de Jésus. Si tu ne changes pas, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Alors quand on lit le chapitre d'avant, on voit que les chandeliers représentent les églises et que Jésus marche au milieu de ces églises. Et sans doute que ça veut dire que Jésus, son royaume, sa présence sur terre, il passe par ces églises, il utilise ces églises. La manière dont il se révèle au monde, c'est de manière privilégiée par ces églises. Si ces églises sont tournées vers lui. Si jamais ces églises dérivent et se mettent à agir par habitude ou pour de mauvais motifs, Jésus n'agira plus à travers elles. Et donc, il vaut mieux agir peu, voire pas, avec de bonnes motivations, plutôt que faire beaucoup de choses, penser et dire beaucoup de choses, mais pour de mauvaises motivations. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien de servir, de s'investir, mais réfléchissons ce pourquoi est-ce qu'on le fait. Et au verset 5, on a aussi la clé, une méthode, entre guillemets, de réaction pour se remettre dans le droit chemin si on voit qu'on est un petit peu parti à la dérive. Et en fait, il y a trois ordres. Se souvenir, se repentir et pratiquer. Et je l'ai résumé en se tournant vers notre passé, se tourner vers Dieu et se tourner vers le présent. La première chose, Jésus nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Si on voit que notre amour pour lui s'est un petit peu refroidi, souviens-toi d'où tu es tombé. Alors concrètement, je suppose que ça veut dire souviens-toi ce que tu étais sans Dieu. Souviens-toi à quel point on était des déchets, des morts quand on était sans lui, ou peut-être au moment où on s'est éloigné de lui. Souvenons-nous de quoi est-ce qu'il nous a sauvés, de quoi est-ce qu'il nous a libérés, des péchés qu'il a mis derrière nous. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Souvenons-nous de nos grands moments avec lui, notre conversion, peut-être de nos moments particuliers où on a compris des choses géniales sur lui, où on a compris de manière particulière son amour ou sa grâce. Rappelons-nous de ça. Rappelons-nous de tout ce que Jésus, de tout ce que Dieu a fait pour notre Église. J'adore discuter avec des gens qui sont là depuis longtemps dans l'Église et de voir comment Dieu a pris soin de cette Église, a fait plein de bonnes choses, a apporté plein de beaux et bons changements au cours du temps. Il n'a pas abandonné. Toutes ces choses, ça revient à se rappeler d'à quel point Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Et ça, ça va forcément développer notre amour pour lui. Et en toile de fond de tout ça, ça revient à se souvenir de qui Dieu est, par ce qu'il a fait dans nos vies. En fait, on en revient à réfléchir, à méditer sur qui Dieu est, sur ce qu'il est. Et il y a d'autres moyens de s'aider dans cette démarche. La lecture de la Bible. Colin l'a rappelé tout à l'heure, la Bible est un livre qui parle avant tout de Dieu, qui parle avant tout de Jésus et de son œuvre. Si on l'étudie, si on la prie, si on la médite, on va apprendre des choses sur Dieu. Dieu étant un Dieu merveilleux, ça va nous conduire à l'aimer. L'Apocalypse est super bon pour ça. Il y a une révélation, une imagerie particulière pour nous montrer Jésus, à quel point il est glorieux, à quel point il est puissant. Et donc prenons du temps pour contempler Jésus, pour contempler Dieu de cette manière. La deuxième étape, c'est la repentance. Alors là aussi, merci Colin qui en a parlé la semaine dernière dans son message sur le psaume 51. Alors qu'est-ce que la repentance ? C'est à partir d'une prise de conscience d'un péché, Dans ce cas, celui de, d'avoir agi pour de mauvaises motivations, d'avoir abandonné notre amour pour Dieu, c'est de se tourner vers Dieu, d'arriver à genoux devant lui en lui demandant pardon, avec, comme on l'a chanté tout à l'heure, rien à lui offrir, rien à lui apporter, mais avec cette confiance que grâce au sacrifice de Jésus, il est là pour nous pardonner. Avec cette volonté de changer de direction. Et donc la repentance, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à au moment de notre conversion. La vie de chrétien est une vie de repentance quand on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de lui. La dernière étape, pratiquer. Après s'être tourné vers notre passé, vers ce que Dieu a fait pour raviver notre amour pour lui, après s'être tourné vers Dieu pour lui demander pardon, il s'agit de se tourner vers le présent pour voir maintenant qu'est-ce que je fais. Et là, je vais volontairement ne pas donner d'exemple. Parce que je pense que le message ici, c'est justement de se dire, avec cet amour renouvelé que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, à partir de ça? Et ça dépend des personnes, ça dépend des dons que Dieu nous a donnés, ça dépend aussi des églises. L'important, c'est de voir qu'est-ce que, avec cette bonne motivation de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour lui. Et donc, pour conclure sur ce passage, il y a quelques semaines, mois, j'avais une prière que je pensais super spirituelle. Je demandais à Dieu de m'équiper et de me montrer comment le servir au mieux. Et à la lecture de ce passage, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne prière. Parce que c'est une prière qui fondamentalement est centrée sur moi, est centrée sur ce que je peux apporter à Dieu, et qu'elle n'est pas centrée sur lui. Une prière plus conforme à ce texte serait donc de demander à Dieu qu'il suscite en moi, qu'il suscite en nous, un amour pour lui qui nous pousse à le servir mieux. Il s'agit de réajuster notre direction. Si vous avez déjà fait des randonnées ou des courses d'orientation, on choisit un cap, on regarde notre boussole et on se dit maintenant c'est tout droit par là. Mais on marche 1, 2, 3 kilomètres et il y a tout le temps des obstacles, on est obligé de faire des détours. Et si on ne regarde pas la boussole, on va se retrouver dans une autre direction sans s'en rendre compte. Et donc le but, c'est de demander l'aide de Dieu pour que notre boussole reste orientée sur lui. C'est lui qui doit rester l'objectif premier. Et quand on parle de nos motivations, quand on parle de notre amour pour Dieu, ça peut être super déprimant. Parce que nos motivations ne sont jamais 100% propres. Parce que c'est un combat perpétuel. C'est dur d'avoir la victoire et ça peut complètement nous déprimer et se dire qu'on n'y arrivera jamais. Mais heureusement, il y a ce dernier verset qui est super encourageant. On voit que Jésus écrit ici un message d'avertissement, mais aussi un message d'encouragement. Il termine ainsi, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors le vainqueur, dans l'Apocalypse, c'est tout simplement celui qui a placé sa confiance en Dieu. Celui qui est disciple de Jésus, qui a accepté son sacrifice, est vainqueur grâce à Jésus. Et donc, ce chrétien, ce vainqueur, toi, j'espère, on bénéficiera d'une vie éternelle. C'est ça que symbolise l'arbre de vie. C'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Une vie éternelle, encore mieux que le jardin d'Éden, parce qu'il n'y aura plus l'arbre de la connaissance, plus de possibilité de pécher. Donc on sera donc éternellement dans un état parfait de relation avec le Dieu trinitaire. Il n'y aura plus aucun obstacle à notre adoration pour lui. On n'aura plus aucune mauvaise motivation dans notre service qui sera enfin parfait. On pourra le louer éternellement, sans jamais entrer dans une routine, sans jamais s'habituer. Et donc ça, c'est une pensée qui doit nous motiver. Et en fait, je me dis que ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est puisque vous êtes conscient de cette espérance que vous avez, de cet état de perfection éternelle qui vous attend, essayez de prendre un petit peu de ça et de le vivre dès aujourd'hui dans votre vie. Cet amour parfait que vous aurez un jour, commencez dès à présent à le vivre. Cette louange parfaite, ce service parfait que vous aurez dans l'éternité, commencez dès à présent à le vivre ici et maintenant. Donc, ce que je nous souhaite pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois-ci, c'est de penser à cette éternité avec lui qui nous attend et que ça nous donne tellement envie, que ça nous remplisse tellement d'amour pour lui, qu'on ait envie de le vivre. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu es prêt à nous envoyer des avertissements pour nous prévenir quand nos motivations ne sont plus aussi bonnes qu'au départ. Je te remercie parce que c'est un message d'espérance et tu nous offres ton esprit pour en prendre conscience et pour changer. Tu nous offres ton aide, tu ne nous laisses pas tout seul. Et ma prière ce matin pour chaque membre de cette église et pour cette église dans ses activités en général, c'est que vraiment tu nous remplisses d'un amour renouvelé pour toi et qu'on puisse avoir un service qui est pur et qui est motivé pour ta gloire, Seigneur. Et je te demande que tu puisses nous aider là-dedans et que tu puisses nous utiliser et qu'on puisse aussi avoir la joie de voir des fruits dans ce service qu'on a pour toi. Au nom de Jésus, Amen.